L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Le sujet du jour va peut-être vous surprendre, en tout cas moi ça m'intrigue. Il s'agit de patrimoine, mais quand on pense patrimoine, on projette plutôt dans son imaginaire une petite chapelle, un château, une maison à pans de bois, ou à la limite une fontaine, un vieux voilier. On a déjà évoqué aussi récemment le patrimoine immatériel, auquel les communes s'intéressent de plus en plus, les mémoires du passé, les fêtes et autres moments de vie emblématiques qu'il s'agit de conserver. Bien, notre invité, lui, s'est penché sur le patrimoine routier, voyez-vous. Et oui, le patrimoine lié aux routes, donc, quelque part à l'automobile, à la civilisation de l'énergie fossile. Notre invité est géographe et urbaniste, ceci explique peut-être cela. Bonjour Iwan Leclèche.
Bonjour Véronique.
Alors, à quoi sert un inventaire déjà? Parce que c'est en fait un inventaire du patrimoine, je suppose. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que le principe.
C'est ça, dans inventaire du patrimoine routier, il y a trois termes plutôt, qui sont inventaire, patrimoine et routier, qui sont finalement, qui mériteraient presque une thèse chacun d'entre eux. Donc, pour reprendre un petit peu le jingle précédent, moi je laboure les circuits, alors pas forcément court, mais je laboure les circuits pour faire simple. C'était juste le petit clin d'œil que je voulais pas oublier. Voilà, c'est... l'inventaire du patrimoine routier, c'est breton, c'est un inventaire. Donc un inventaire, c'est effectivement recenser, compiler, inventorier, décrire finalement ce que faisait à une autre, toute autre échelle Prosper Mérimée, pour les monuments historiques, hein, puisque c'est grâce à lui que la France a pu se doter d'un premier inventaire des monuments et sites historiques, en gros, des endroits à préserver, des endroits à sauvegarder, que ce soit pour la qualité du bâti ou de la réalisation humaine, que ce soit pour la qualité du site. Si on prend l'île de Bréa, c'est du patrimoine naturel, hein, c'est pas du patrimoine routier. Si on prend la baie du Mont-Saint-Michel, c'est du patrimoine pour la baie, pour le Mont-Saint-Michel, et puis pour... le point de départ d'un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc là, on a même le côté immatériel du patrimoine. Alors, le patrimoine routier en lui-même, c'est du patrimoine qui va être un petit peu différent dans le sens où il va, comme vous le disiez, hein, évoluer en fonction de la société. Alors, société industrielle aujourd'hui, société postmoderne demain, société artisanale hier. Et finalement, le patrimoine routier... Bon, c'est le patrimoine qu'on va trouver au bord de toutes les routes. Alors, ça peut être la route en elle-même, la Nationale 7, finalement, au fond, c'est du patrimoine.
Mais pas seulement en matériel, d'ailleurs, c'est tout un imaginaire, la Nationale 7, les grands départs en vacances, les deux chevaux, les...
Charles Trenet,
bien sûr.
Et puis aujourd'hui, toujours, hein, les circuits, les courses d'anciennes d'automobiles, mais qu'on va retrouver chez nous à plus faible échelle, notamment sur la Nationale 12, hein, la traversée de Morlaix, les associations d'anciens automobilistes qui réorganisent des bouchons comme avant dans le centre de Morlaix.
C'est
du patrimoine, hein, et les vieilles voitures aussi, c'est du patrimoine. Alors le patrimoine routier, finalement, c'est, on va dire, quatre types de patrimoine. Ouais. C'est le patrimoine, les ponts, les viaducs, les chaussées en elles-mêmes, hein, puisque les voies romaines ou les voies un peu... atypiques dans leur façon de faire, je pense au Paris-Roubaix par exemple, c'est du patrimoine. Alors on est plus sur de l'infrastructure, on est plus finalement sur du patrimoine, on va dire presque industriel, ou du patrimoine d'ingénierie. Donc c'est pas vraiment du patrimoine routier inventoriable par le commun des mortels, parce qu'il faut quand même des compétences que je n'ai pas. Et on va retrouver la même chose, hein, notamment dans les Côtes d'Armor et le Finistère, ou Côte du Nord et Finistère, pour le patrimoine ferroviaire, avec tous les viaducs de Louis Harel de la Noé, par exemple. Il faut des compétences spécifiques que je n'ai pas.
Et... Ah oui, pour déterminer quels sont les ponts intéressants ou ceux qui ne le sont moins. Quoi.
Déjà, et puis pour le descriptif des ouvrages d'art, de la maçonnerie, etc.
Enfin, ah oui. C'est un travail. En fait, quand on inventorie, on décrit, c'est ça ? On choisit et on décrit.
On décrit, et puis après, on acquiert éventuellement des compétences, mais quel que soit le mode de patrimoine. Et après, moi, la partie qui va plus m'intéresser, c'est le patrimoine dit vernaculaire, donc le petit patrimoine ou le patrimoine courant, alors qui va être les anciennes stations-service, les anciens commerces de bord de route, qui finalement sont pas très très intéressants en Bretagne, parce que soit ils sont encore en activité, soit il y en a vraiment trop, donc ouais. On n'est pas sur du patrimoine très intéressant. Par contre, moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est la partie, on va dire, vieille signalétique.
Alors voilà,
c'est ce que j'allais dire. On a un très bel exemple, là, en face du siège du PNR.
Du Paris d'Armorique, ah oui, qu'est-ce qu'on a comme signalétique?
Alors, on a une ancienne flèche Michelin, qui indiquait la direction probablement de Crozon sur une route nationale. Alors, j'ai pas le numéro là, mais peut-être que de là où vous êtes, vous arrivez à voir le cartouche du panneau qui départemental, donc ça doit être la 700 et quelques.
Oui, c'est une 700, mais j'avoue que c'est pas la 785, non ? Ou 770, ouais, je sais jamais.
La 785, de mémoire, elle relie Morlaix au phare d'Eckmühl, donc
elle ne doit pas
passer par ici. Mais bon, enfin, une 700 et quelques qui traversait différentes localités du Finistère et qui venait compléter la... ça doit être la 164 qui à l'époque reliait Angers et Landerneau, donc Angers, Nantes et Brest pour faire simple.
L'ancêtre de notre voie express, quoi.
Alors l'ancêtre...
Si on veut.
Oui, ou la descendante du canal de Nantes à Brest, plutôt pour parler mobilité. Et ce qui va être intéressant dans le patrimoine routier, c'est que finalement, il suffit de se balader, de prendre le vélo, de prendre la voiture, de marcher... Et puis on en voit, on n'a pas besoin d'aller fouiller au fond d'un chemin comme pour aller trouver une chapelle ou un mégalithe, ou même rentrer dans des propriétés pour trouver un cadran solaire ou un four à pain. On est vraiment sur du patrimoine vernaculaire qui va plus ou moins être utilisé aujourd'hui et qui en tout cas est facile à recenser, et qui c'est plus un prétexte à la promenade finalement qu'un intérêt scientifique.
On ne fait pas un inventaire du patrimoine routier en voiture en tout cas. Il faut une certaine lenteur. Quoi.
On peut, mais il faut accepter de s'arrêter assez souvent. Ouais. Après, moi, c'est vrai que j'avais commencé à me balader dans le nord des Côtes d'Armor à vélo. Et puis je trouvais ça intéressant de photographier quelques cadrans solaires ou sur les églises ou chapelles, des vieux panneaux aussi, typiquement les panneaux Michelin en béton. Et puis de fil en aiguille finalement, j'ai accumulé une petite collection. On est plusieurs comme ça en France ou en Bretagne. Il y a Jean-Pierre Guillou à Banalec, il y a Philippe de Priester qui est le spécialiste du panneau Michelin, qui lui est normand mais qui a des données sur l'ensemble de la France et même au-delà, puisque c'est finalement une thématique partout où on est, on la rencontre. Il y a Jean-Michel Levaou qui est pareil en région parisienne, qui lui a compilé aussi des informations. Il y a plusieurs autres personnes comme ça. Et puis il y a Patrick Rollet qui lui est spécialiste des plaques de cocher. Alors, la plus proche ici doit être à Rosnoen, si je me trompe pas.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors la plaque de cocher, en fait, c'est pas forcément une plaque et c'est pas pour les cochers.
Oui, parce que moi c'est ça que je
déjà
vois.
Déjà le nom est en lui-même.
C'est quoi ? C'est de porte cochère. C'est un rapport avec porte cochère ?
Non, c'est un rapport avec les cochers. En fait, c'était plutôt des dispositifs de communication, de signalisation, qui la plus souvent sont sous forme de plaques en fonte. Hein, donc le terme plaque reste quand même correct. Mais qui, plutôt que pour les cochers, était plutôt à destination des cyclistes, du temps où les mobilités se faisaient, alors en diligence certes, d'où le nom cocher, mais aussi à vélo dans le cadre du développement du tourisme ou de l'industrie, les ouvriers devant aller se déplacer jusqu'à leur usine en vélo, parfois sur des très longues distances, et puis surtout les tout premiers touristes commençant à sillonner la France, qui avaient besoin donc de dispositifs de signalisation pour savoir où ils allaient, pour avoir des informations éventuellement sur une descente dangereuse ou sur un site historique intéressant.
Donc elles étaient au sol, ces plaques ?
Non, elles étaient à hauteur de cochers. Pour donner un exemple là, sur la pizzeria du Fou, là, qui est sans faire de publicité, qui est juste devant nous, ce serait en gros au-dessus de l'enseigne, au niveau des fenêtres supérieures. Quoi,
donc c'était haut. Quoi. Et c'était apposé sur des bâtiments, ça pouvait
alors,
pas...
Celle qui est en Finistère, les quelques restantes, oui. Après, il y en avait aussi de posées sur des mâts. Si on prend les vieilles cartes postales, on en voit sur des mâts Port-Sal, par exemple. Et puis dans l'est de la France, où il en reste un petit peu plus, on en voit encore des qui restent posées sur des mâts. Avec des mâts, avec une, deux, trois, parfois quatre... plaques à poser sur le mât et qui finalement signalait autant de directions, autant d'informations, avec généralement des sponsors soit pour la pose, soit même carrément indiqué. Le Touring Club de France, par exemple, qui était un sponsor assez récurrent dont la marque reste en Finistère, pas à ma connaissance, mais en Côte d'Armor, à Plounérin, donc sur l'ancienne Nationale 12, et à Châtelaudrin, pardon. Châtelain, donc, ouais, pas dans les Côtes d'Armor. À Châtelaudrin, pour indiquer une chapelle. Donc, avec la vocation vraiment d'idée automobiliste.
C'est apparu quand c'est,
alors,
c'est
on est plutôt
à peu près,
sur la fin 19e.
Ah oui, d'accord, c'est vraiment très ancien. Et il en reste.
Alors, c'est ancien et en même temps, c'est très récent. Il en reste environ 10 000 en France. En Finistère, on va être sur peut-être 15-20 encore en place.
Ah ouais.
Plutôt dans le secteur du Cap Sizun, avec des disparitions assez fréquentes parce que il y a quelques collectionneurs qui sont intéressés, qui rachètent ou qui, pour eux, les gardent. Des destructions aussi lors de destructions de murs. Et après, dans les musées, il en reste quelques-unes aussi, sachant que là, on va dire, il y en a peut-être une trentaine de connues. C'est pas impossible qu'il en reste 200 entre des greniers, des garages, des endroits enfuis sous lierre, des endroits posés à terre.
Ah ouais. Mais donc c'est quand même des objets anciens. Enfin, ça m'amène quand même une question. Mais à partir de quand on a décidé que qu'il y avait du patrimoine routier ? Enfin, ça remonte à quand le patrimoine routier, si on veut, quoi ?
Alors, et c'est justement l'intérêt de cet inventaire-là. Et c'est pour ça qu'on a un acteur dont j'ai pas parlé, qui est la région Bretagne, un petit acteur inconnu de la plupart des Bretons, qui donc met à disposition de n'importe quelle structure finalement ou particulier qui le souhaite un outil donc de recensement qui permet de recenser le patrimoine en fait et de le cartographier ensuite par le biais de l'outil Carten. Après, il faut que ce soit un patrimoine intéressant, on va dire le patrimoine des trombones de la radio par exemple.
Ouais, ça c'est pas trop intéressant, on en a pas tellement en
plus. Hyper intéressant, mais du moment finalement où eux ils trouvent un intérêt, sachant que là finalement c'est toute la société industrielle du côté post-industriel, enfin du pré-industriel au post-industriel qui finalement est recensé et cartographié par le biais de cet outil-là. Parce que si vous prenez par exemple les plaques de Cocher, vous avez une grosse fonderie qui va de la fonderie Bouillant. La fonderie Bouillant qui finalement, alors je vous passe un peu de détails, a été rachetée par Peugeot et qui a ensuite créé, qui a donné lieu à la fonderie Japy qui est dans l'Aisne, si je ne me trompe pas, en Picardie, qui ensuite est devenu un professionnel du panneau. Hein, je vous épargne le nom parce qu'on n'est plus du tout dans le patrimoine. Mais à côté, vous avez par exemple un homme, André Citroën, encore un inconnu des automobilistes surtout. André Citroën qui, lui, donc était à la tête d'un sous-traitant automobile, le Morse, MORS, qui fabriquait des radiateurs pour les automobiles, qui, lui, avait mis en place un système de panneaux, on va dire, par des peintures, un radiateur en fait peint avec au milieu du panneau la destination, la flèche et puis la distance, donc finalement un panneau normal, on va dire, mais avec une grosse publicité. Il en reste pas beaucoup, à ma connaissance même il n'en reste aucun, et sur les images d'archives, donc les photographies pour faire simple, on en voit quelques-unes. La plus proche, à ma connaissance, étant à Carhaix, indiquant la direction de Calac. Donc on est vraiment sur quelque chose de très rare en termes de documents iconographiques. Par contre, après, André Citroën a impulsé la création industrielle, via la société Citroën, qu'on ne présente plus, de plaques en forme un petit peu d'ovale avec les deux chevrons Citroën, et puis des indications qui peuvent être agent Citroën dans le cas d'un garage. Le nom de la commune cerné d'un carré ou d'un rectangle pour les automobiles, et puis tout simplement des indications routières telles qu'on en connaît aujourd'hui, avec des indications, des panneaux indiquant un virage dangereux, indiquant une destination, une distance.
Ça veut dire que les premiers panneaux routiers étaient des panneaux privés, avant que ça se normalise. Enfin, quand est-ce que d'ailleurs ça s'est devenu normé, contrôlé par l'État, etc.
Alors assez rapidement en fait, parce que c'est Citroën en fait qui a impulsé la normalisation. Donc c'est privé qui a impulsé pour répondre. C'est vraiment André Citroën qui a l'origine de la normalisation, parce que justement, lui, en industrialisant, il a fait ce que beaucoup faisaient tous les conseils départementaux, en gros, ils faisaient des informations, mais un petit peu à l'arrache. Citroën, lui, il a lancé, il a industrialisé,
Donc c'était aussi pour standardiser, j'imagine que c'était plus pratique.
C'était pour standardiser, ouais, puis ouais. Finalement, c'est le principe du Fordisme, hein, en uniforme, mise pour rentabiliser, puis pour vendre plus à côté. Alors, des voitures, du coup, Citroën et pas des voitures Ford, mais on est un peu sur les mêmes logiques. Et après, Citroën, voyant que ben, y avait notamment un problème de rouille, qu'il y avait un problème de publicité qui était un peu trop visible... Et,
ouais, qui distrayait l'automobiliste, on va dire.
C'est ça. Donc là, il y a eu deux normalisations. Ah ouais. Il y a eu la première sous la forme de panneaux par, bah, par le biais de Michelin. Donc Michelin, c'était encore, on retrouve encore André Citroën, hein, avec toujours des petites informations publicitaires, poteau Michelin, panneau Michelin, jusqu'aux années 20, en fait, des informations, et jusqu'à une loi qui interdisait la publicité sur les panneaux. Mmh. Donc la publicité, on va en retrouver ailleurs en France, un don de la caisse d'épargne, don des chemises machin, pour prendre des exemples que j'ai, qui m'ont amusé dans le centre de la France. Après, effectivement, en Bretagne, sur les publicités qu'on retrouve, il y a Morse, il y a Citroën, il y a Michelin, il y a Peugeot. Peugeot qu'on va retrouver... alors, en Finistère, il en reste deux, un à Sker et un à Brest chez des particuliers.
Et pas à Crozon, tiens.
C'est et de... pas à Crozon. Ah ouais. Et puis, on va retrouver aussi des publicités, des sponsoring. En fait, je parlais du Touring Club de France, par exemple. Et puis, dont des monuments historiques ou l'Église catholique aussi qui... semble-t-il,
ah oui,
à financer des panneaux routiers.
Donc c'était plutôt des panneaux qui indiquaient des directions, c'était pas forcément des panneaux qui disaient stop, si quand même il y avait un peu de,
alors pour,
d'avertissement pour de sécurité, on va dire quoi.
Michelin, c'était, Citroën, pardon, c'était essentiellement quand même des informations liées à la sécurité. Les plaques de cocher, on était plutôt sur des destinations. Quelques informations, hein, il en reste une à Quimper, par exemple, chemin interdit aux automobilistes, chemin de halage interdit aux automobilistes. Après, Peugeot, eux, c'était clairement les agences Peugeot qu'ils indiquaient. Donc ils indiquaient les communes avec des agences Peugeot, puis les agences Peugeot dans, à l'intérieur de la commune.
Qui étaient aussi des garages, je suppose qu'on pouvait
qui étaient des
faire...
garages,
oui,
hein,
oui, d'accord,
okay. Agences,
oui, oui, c'était
des
pas
garages.
Pour acheter une voiture, c'était pour faire réparer ça, ou entretenir en tout cas son...
Et
son...
finalement, c'est du... on retrouve ça encore aujourd'hui, hein, dans les publicités sur, pour les... au bord des routes.
C'est ça, oui.
Le garage Peugeot, il est indiqué pas forcément pour acheter une Peugeot, mais plutôt pour réparer sa Peugeot.
Et d'ailleurs, est-ce que...
Et puis, pour Michelin, on est sur à la fois du patrimoine, donc indiquer le patrimoine. En Forêt du Helgoat, vous en avez plein.
Oui, c'est vrai.
Ils indiquent les sites patrimoniaux. Vous avez de l'information classique, et puis vous avez...
C'est du costaud, ils sont en béton, enfin c'est ça. Hein.
Alors ils sont en béton armé, avec donc à la base une fabrication 100% auvergnate, puisque Michelin était auvergnat, avec de la lave auvergnate.
Ah, ouais,
et
ouais.
Semble-t-il, et là, c'est là toute la difficulté de ce patrimoine, qui un, légalement n'existe quasiment plus, deux, qui était produit à telle échelle que trouver des infos sur la rareté... C'est pas possible. Il est possible qu'il y ait eu des productions locales, et si on approche de Tréguennec par exemple, on retrouve ce qui ressemble à des galets dans les blocs de béton. Oui. Donc ce serait pas impossible qu'il y ait eu des productions locales
de panneaux Michelin à Tréguennec,
en lien avec l'usine de Tréguennec.
C'est on ne saura jamais, en fait. Ouais.
Alors, il suffit de retrouver les archives.
Oui, c'est ça. Et donc, alors ça, c'est du... donc, ces panneaux... est-ce que les panneaux publicitaires feraient éventuellement partie du patrimoine routier? Enfin, oui, non.
Alors, le côté patrimonial, c'est le côté un petit peu rare, on va dire. C'est le côté aussi un petit peu ancien. Le patrimoine peut très bien avoir 2 ans. Hein. Ou peut être récent, une cabine téléphonique, une boîte, une boîte aux lettres bientôt, c'est du patrimoine.
Ouais.
La cabine téléphonique, si elle est anglaise, on va te la trouver jolie. Si elle est française, pas forcément. Et je ne me battrai pas pour en avoir une dans mon jardin.
Ouais.
Mais les boîtes aux lettres de la Poste jaune, ce sera bientôt du patrimoine. Même
c'est
les
vrai.
Téléphones fixes aussi. Hein, c'est... Donc les modems internet, c'est un peu du patrimoine. Tout ce que vous pouvez trouver dans une brocante finalement. Et après, les panneaux publicitaires, celui qui va indiquer un Leclerc, pas forcément. Si, par contre, si vous baladez à Bénodet, vous voyez une publicité pour l'ancien supermarché Cascade de Fouesnant, ou
qui
à Quimper, pour Continent, pour Rallye.
Des marques qui n'existent plus. Quoi, voilà.
Même pour Géant, puisque petit scoop, Géant
à
Quimper n'existe plus, et à Brest non plus. Change de sujet, mais... on est finalement sur un côté patrimonial, avec des communes comme Audierne, comme Châtelaudrin dans les Côtes d'Armor, et puis toutes les communes, surtout dans le centre de la France, qui étaient traversées par des nationales. Vous avez toutes les publicités murales qui indiquaient Volvic, Vichy, Célestin, une marque de supermarché, Esso, Total.
Oui, ça peut faire patrimoine routier, quoi.
On est sur du patrimoine, du bon, du beau, du bonnet.
Bah, bien sûr, ça...
c'est presque la base du patrimoine franchouillard.
Mais c'était en plus vraiment des publicités qui étaient destinées plutôt à l'automobiliste, parce qu'elles étaient très grandes. On peut dire que c'est routier, là, pour le coup, ce genre de publicité, quoi. Enfin, c'est un patrimoine routier,
si on veut. C'est du patrimoine qui est destiné à la personne qui la voit. Donc, si la personne voit cette publicité... c'est qu'il est sur la route, donc oui, c'est du patrimoine vraiment routier qui est lié vraiment à sa disposition sur le bord des routes, et du patrimoine qui, on le constate avec les bourgs, lors qu'il y a une rocade, il suffit de prendre la Nationale 164, là, une déviation d'un centre-bourg, d'un centre-ville, c'est des flux automobilistes qui désertent la commune, c'est exactement le même principe, quoi. C'est l'ancienne route avec ce qu'elle comportait de publicité murale, de publicité d'anciennes signalisations, d'anciennes auberges.
Alors, les quatre types de patrimoine routier, pour reprendre, c'est donc toutes les infrastructures, le bâti, c'est séparé, enfin le bâti de bord de route, c'est séparé des infrastructures, c'est ça ? Alors,
par exemple, si vous prenez Carhaix, vous traversez Carhaix par l'ancienne route nationale, vous voyez plusieurs anciennes stations-service.
D'accord. Donc ça, c'est séparé
des patrimoines.
D'accord. C'est séparé des ponts, quoi, on va dire.
Ouais. C'est séparé des ponts. Il n'y en a pas assez en Bretagne pour que ce soit vraiment intéressant, ou il y en a trop pour que ce soit vraiment intéressant. Enfin, ça dépend de comment on voit, mais...
Ouais.
Donc les stations essence, les anciens commerces. Et finalement, on est plus dans du patrimoine, l'inventaire des anciens commerces de Bretagne, et là, pour le coup, ce serait vraiment fastidieux, que sur les inventaires du patrimoine routier.
D'accord.
Pour vous donner une idée, en Finistère, où j'ai fini là de... compilé, pas encore de rentrée sur l'inventaire régional, on est grosso modo à deux éléments patrimoniaux intéressants par commune.
Ah oui.
Donc si vous prenez le nombre d'anciens commerces par commune, rien qu'au fou, il y en a un paquet.
Oui,
chaque carrefour, il va y en avoir un presque.
C'est vrai.
Chaque ancien village, chaque ancien bourg. Et puis si vous prenez les anneaux pour attacher les chevaux qui vont symboliser, ou les anciennes vitrines, les anciennes enseignes, vous êtes peut-être à 20, 30, 40, peut-être même 50 anciens commerces par bord de route par commune.
D'accord.
En Finistère. Ce serait vraiment
trop
fastidieux. Par contre, pourquoi pas inventorier tous les commerces de tous les anciens commerces de l'ancien canton du Fou, par exemple.
Oui, mais là, c'est plus pas forcément l'inventaire du patrimoine routier, pour le coup.
Non, et là, on est vraiment sur du local, parce que il y en aurait vraiment beaucoup trop, quoi. Après, ce serait thématique, station-service ou auberge.
Oui, d'accord, ça serait thématisé.
Oui, sachant que les anciens relais de poste, pourquoi pas, par exemple, l'ancêtre des plaques de cocher, sachant qu'il en reste quelques-uns, notamment dans les monts d'Arrée, qui sont encore bien visibles, avec certains avec leurs plaques de cocher, justement. Donc, une transition, finalement, toute trouvée. Donc, effectivement, il y a ça, il y a l'infrastructure, le domaine de l'ingénierie. Il y a tout ce qui va être...
les panneaux, donc
les panneaux,
on a bien parlé. Ouais,
et puis, tout ce qui va être lié au bâti. Donc, le bâti lié à la route directement. Donc les stations-service, par exemple, les relais de poste, et puis le bâti qui va se greffer sur la route, que ce soit le commerce, ou lié au commerce ou au bâtiment, tout ce qui va être publicité murale, pardon,
d'accord,
dont on parlait tout à l'heure.
Ah ouais, d'accord, ça y est. Donc là, on a le champ de ce qui est un patrimoine, ce que peut être en tout cas un patrimoine routier.
Sachant que moi, je me concentre vraiment sur la partie panneau, parce qu'il y en a beaucoup trop.
On ne peut pas tout faire, quoi.
Et que là, on est vraiment trois à être plus ou moins actifs dessus. Quand je dis plus ou moins, Patrick Rollet, lui spécialiste national des plaques de cocher, était très actif. Moi, j'ai mis un peu de temps à démarrer parce que
ça
prend du temps.
Il faut être passionné parce que c'est pas vraiment rémunéré. C'est ça.
C'est ça. Bah, la région soutient, la région aide. Ouais. Et puis finalement, c'est un prétexte aussi à trier les photos personnelles.
Mais c'est ça.
Qui sont pas forcément liées au patrimoine routier ou autre. Et puis ça occupe aussi certaines soirées froides d'hiver, on en connaît actuellement.
Ça fait des promenades quand on va sur le terrain, quoi.
Ça fait des promenades, ça fait des prétextes aussi à balade. Et puis la troisième personne, c'est Jeroen Schvordien, en espérant pas trop écorcher son nom, qui est un Hollandais spécialiste du patrimoine touristique, religieux, mais de façon générale du patrimoine, qui est basé à Châteaubourg, donc en Ille-et-Vilaine.
D'accord. Ah, oui, je ne sais pas, on n'a pas parlé, maintenant on n'a plus le temps, mais par exemple, les peupliers de bord de route, ça pourrait être patrimoine routier. Enfin, nous, on n'en a pas beaucoup en Bretagne, hein, mais bon, ça pourrait,
après, pas tout de suite, je dirais.
Oui, c'est ça,
bien sûr. Mais finalement, tout ce qui va être ancien tronçon de route nationale ou départementale, qui sont les successrices des routes nationales, ça va être du patrimoine routier.
Ou la route engloutie sous le lac du Drennec, la petite morceau de route, là.
Oui, non, mais c'est le passage du Gois, même à Noirmoutier, c'est une route utilisée, ça reste du patrimoine, et c'est un endroit où qu'on traverse plutôt pour le fun ou pour le plaisir que pour aller à Noirmoutier, puisqu'il y a quand même un pont qui est quand même un peu de meilleure qualité, bien qu'un poil plus cher. Certains bacs aussi, certains passeurs aussi. Hein,
c'est vrai. Quelque part, c'est de la route aussi.
C'est de la route. Le passeur Bénodet, c'était du patrimoine. Il reste quelques éléments, notamment les amorces de chaîne, notamment les cales.
Les cales, oui.
Deux panneaux à Bénodet qui s'adressent aux automobilistes qui arrivent de la mer. Les automobilistes qui arrivent de la mer, c'est ceux qui sortaient du bac. Hein,
d'accord,
c'est...
oui, bien sûr.
Mais en soi... Si on a le choix, je pense qu'entre prendre les bacs qui traversent la Loire entre Nantes et Saint-Lazare ou prendre un pont, si on a le choix et le temps,
c'est sûr.
Mais si on a le temps et le choix pour le plaisir.
Si on a le temps, oui, pour le plaisir.
On va prendre le bac.
C'est vrai. D'accord. Et donc on peut retrouver cet inventaire sur le site de la région. Enfin,
Le site, c'est pour tous les inventaires, quels qu'ils soient, c'est Karten, KARTE2N. Vous cherchez ça dans le moteur de recherche et vous allez tomber sur tous les inventaires réalisés en cours par moi ou par d'autres, et avec une personne que je remercie qui met quand même à disposition cet outil, qui est Elisabeth Loire-Montgazon.
Le message est passé. Merci Johan Leclèche. Vous reviendrez nous parler de patrimoine routier, parce que je crois qu'on n'a pas épuisé la question.
Non, on a beaucoup de choses à se dire encore.